7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, le sport et l'émancipation des femmes. Dans de nombreux pays, y compris en Europe, les filles font moins, beaucoup moins de sport que les garçons. Et personne ne s'en étonne vraiment. Les familles, les pouvoirs publics se disent plus ou moins consciemment qu'il faut bien canaliser l'énergie des garçons à travers le sport pour avoir le calme. Et pour les filles, si dociles, à quoi pourrait bien servir le sport? Eh bien, on va en discuter avec nos invités pas toujours calme. Laurence Fischer, bonjour.
Bonjour.
Triple championne du monde de karaté, vous avez fondé l'association Fight for Dignity, combattre pour la dignité, qui accompagne les femmes victimes de violences en France et en RDC. Vous revenez d'ailleurs de Pandi, à l'est de la République démocratique du Congo. Vous étiez la semaine dernière.
Oui, absolument, je suis rentrée jeudi dernier.
Avec le docteur Denis Mukwege, oui. Prix Nobel de la paix. Vous nous direz ce que vous faites là-bas avec le docteur Mukwege. Candice Prévost également avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous avez commencé en jupe de tennis pour finir footballeuse professionnelle de haut niveau, PSG. Présidente aussi de l'association Little Miss Soccer, qui parcourt le monde pour aller à la rencontre des femmes qui jouent au foot. Juin prochain, évidemment, on a bien ça dans notre petit coin de notre tête, la Coupe du Monde féminine de foot, qui intéresse d'ailleurs de plus en plus le public. Elle sera retransmise en France pour la première fois sur une grande chaîne de télévision.
Pour la première fois sur une grande chaîne de télévision, mais très souvent les Coupes du Monde étaient diffusées sur d'autres chaînes aussi, et c'est là très exceptionnel effectivement la médiatisation de cette Coupe du Monde.
Ah, c'est déjà un point de gagné hein, finalement.
Oui, oui, la visibilité est très importante, mais il va falloir continuer la visibilité après la Coupe du Monde.
Marie-Cécile Nave, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice des études du groupe de réflexion Sport et Citoyenneté. Vous avez publié Le Sport, outil d'émancipation pour les filles à travers le monde. Vous avez aussi créé l'Observatoire Genre et Géopolitique au sein de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Preuve que le sujet devient presque sérieux. Et le 27 mai prochain, conférence à Paris sur l'émancipation des filles par le sport. S'inspirer des bonnes pratiques dans le monde. On a beaucoup à apprendre des autres sur ce sujet.
Oui, on a beaucoup à apprendre de tous les pays du monde et on aura la joie d'accueillir Laurence Fischer et Candice Prévost lors de cette conférence, dont RFI est partenaire d'ailleurs.
Et quant voilà. À vous les voisines, dites-nous si le sport a changé quelque chose dans votre vie de femme. Appelez-nous dès maintenant, vous avez la parole au 33 1 84 22 71 71, c'est aussi le téléphone au WhatsApp. Appelez-nous surtout pour nous parler en direct maintenant puisque l'émission a démarré. Et puis bien sûr les entraîneurs, les coachs, si vous travaillez avec des sportives, appelez-nous aussi 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques messages postés sur les réseaux sociaux. Abdel Fattah est à Abéché au Tchad et nous dit que peu de filles pratiquent le sport ici en Afrique. La vision traditionnelle condamne l'exposition du corps des femmes. Pourtant, la femme a le droit de se développer sur tous les plans, dont le sport. Désirée, elle est à Liverpool. Elle est tchadienne d'origine. J'ai joué au handball à l'âge de 12 ans. J'ai fait partie à 15 ans d'une équipe d'adultes. C'était au Tchad. C'est mon prof à l'école qui m'a poussée. C'était difficile au début de m'intégrer à l'équipe, mais ma passion pour le handball m'a aidée. Dans ma vie d'adolescente, ça m'a permis d'échapper aux problèmes de l'adolescence et aux problèmes politiques aussi au Tchad. Le pays sortait de la guerre, ça m'a évité de traîner dans la rue. Beaucoup d'enfants de mon âge qui avaient perdu leurs parents ont mal tourné. Drogue, alcoolisme, prostitution. Et pour mes études, comme pour ma vie professionnelle, le sport m'a appris à me battre. Laurence Fischer, vous pensez que tout peut partir d'un prof? Parce que là, oui, c'est son cas, un peu, à désirer.
Je suis assez d'accord que le fait que d'avoir un l'enseignant, que ce soit dans le sport d'ailleurs ou dans d'autres domaines, participe beaucoup, surtout quand on est jeune, à aimer, à être curieux et à s'émanciper, à se développer par la pratique. Ça fait beaucoup. Et nous d'ailleurs, avec Fight for Dignity, le volet pédagogique dans la spécificité du post-trauma est extrêmement important. Parce que c'est ça qui va faire aussi que les femmes vont avoir envie, parce qu'elles vont se sentir, elles vont s'approprier la pratique aussi.
D'autant plus pour le sport où les femmes ne sont pas forcément légitimes dans certains pays.
Bah, la légitimité diversité, effectivement, c'est une grande question. Je pense qu'il y a aussi un volet culturel, organisationnel aussi. Oui, c'est vrai que ça, se sentir légitime, ça passe aussi par le fait aussi de pouvoir s'identifier à d'autres femmes enseignantes, ou d'autres femmes participantes. Donc, plus les femmes seront nombreuses à pratiquer, plus elles se sentiront aussi légitimes de pouvoir pratiquer.
En l'occurrence, l'entraîneuse, c'est souvent un entraîneur, non?
Oui. C'est très très souvent un entraîneur, oui, effectivement. Et on a encore du mal aussi à dire entraîneuse dans le vocabulaire sur la féminisation des mots. On a eu la féminisation des métiers, mais entraîneuse, on a encore du mal à le dire. Je crois que c'est pas encore.
Il y a des entraîneurs féministes.
Il y a des entraîneurs féministes, c'est une très bonne question. En France ou ailleurs? Oh, je pense qu'il y en a. Oui, oui, il y en a. À partir du moment où je pense même que des hommes investissent les terrains avec les femmes, déjà il a passé le cap.
Ils ont intérêt à vous faire gagner, déjà.
Il a passé le cap.
Un voisin à Dakar, au Sénégal, nous dit « Dans certains établissements, les filles jouent au foot, mais il y a toujours peu de spectateurs. Le jeu des filles ne nous fait pas rêver. » Qu'en disent Prévost, trois bonnes raisons de regarder le foot féminin.
Trois bonnes raisons. On a 13% de jeux effectifs en plus que les garçons. C'est-à-dire qu'il y a la télévision, on voit que la pratique féminine est beaucoup plus fluide et moins hachée par rapport aux garçons.
Et comment vous calculez 13%?
Alors ça, mathématiques, je suis très très mauvaise en mathématiques, je ne fais que lire ces informations. C'est Jean-Michel Aulas d'ailleurs qui nous l'a dit dans une de nos interviews qu'on a pu avoir avec lui avec Little Miss Soccer. Donc c'est lui qui dit ça. C'est encore pas très très développé, exposé, et donc l'économie de la pratique féminine n'est pas encore celle des garçons, ce qui fait que on n'a pas forcément non plus les mêmes réactions sur le terrain et aussi dans les stades et dans les médias également.
Et tout de suite, un message posté sur le WhatsApp au 33 1 84 22 71 71. Maintenant, à partir de maintenant, l'émission a démarré. Appelez-nous en direct. On écoute le message de Josie Adouala, mère de famille de 46 ans.
En dehors du sport que je faisais au collège, j'avais des cassettes vidéo de Cindy Crawford et je faisais le sport là à la maison. Je suivais des exercices sur la cassette vidéo et puis je le faisais. Parfois, c'était les fessiers, c'était le ventre, les abdominaux. Et j'habitais avec ma tante à l'époque. Elle était active pour le sport. Le week-end, on allait un peu courir. J'étais vraiment dedans dans le sport. Quand je n'en faisais pas, je ne me sentais pas bien. Mais depuis là, maintenant, je suis paresseuse. Là, maintenant, les enfants sont à l'école. Elles vont très tôt, à 5 heures, 6 heures, elles sont déjà parties. Il fait encore frais, je peux prendre 30 minutes, une heure à faire du sport, à courir. C'est juste la paresse. Pourtant, j'en parle avec ma fille aînée, j'ai envie de faire du sport, mais je n'arrive pas à m'engager, à aller au bout de ma pensée, de le faire. Peut-être parce que je suis seule, je ne suis pas motivée par quelqu'un. Donc, je veux juste être boostée, peut-être par quelqu'un. Ben voilà.
Marie-Cécile Nave, la solitude pour les filles ou les complexes par rapport au corps aussi parfois?
Alors ça, c'est sûr que le sport, c'est un des lieux de construction sociale et politique du corps, des masculinités, des féminités, et que dans tous les pays du monde, finalement, c'est sans doute le loisir ou l'identité corporelle ou l'identité de genre est la plus présente. Donc le poids des traditions, le poids des stéréotypes est considérable, et ça commence dès l'adolescence. Et ça, c'est vraiment dans toutes les régions du monde, y compris en Europe, où à l'adolescence, il y a un vrai problème d'image de soi, d'image du corps qui est confronté à des normes médiatiques encore, hein, très très contraignantes, en particulier pour les jeunes filles. Ça commence à devenir
c'est
pour
ça,
les jeunes garçons. Mais
les filles, on leur
plus
dit, mets-toi au sport, tu seras, t'auras un plus beau corps, en gros.
D'une part, et d'autre part, le fait de se mettre en tenue de sport devant les autres, de donner à voir son corps dans des vêtements qui ne sont pas forcément destinés à mettre en valeur le corps selon, encore une fois, les stéréotypes normés, eh bien, on peut être complexé. On a tous ces souvenirs-là.
En tout cas, cette voisine, elle nous le dit clairement, elle a envie de se remettre au sport. Ça lui manque, ça la démange presque. Hein. À l'arrêt du bus, elle nous a écrit qu'elle faisait des étirements, elle aimerait continuer, et puis elle ne poursuit pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller?
On revient au fait certainement qu'il y a un problème d'accessibilité au sport. Donc, on parle aussi de de lieux où elles peuvent, un grand nombre de lieux où elles peuvent pratiquer. Et puis aussi, alors peut-être pas dans le cas du témoignage de cette auditrice, mais le fait de s'accorder à soi, déjà à soi-même un temps pour pouvoir faire. On va toujours avoir, il y a les enfants, il y a le travail, il y a toutes les activités, et on ne s'accorde pas un temps pour soi et pour
le corps. Comme si c'était un temps gaspillé par rapport au temps qu'on pourrait, qu'une mère de famille se devrait d'accorder aux autres.
Donc qu'elle s'accorde aussi ce temps-là.
Et trouver des amis, et même de faire de la marche avec sa fille, par exemple, c'est toujours plus facile de se bouger à plusieurs en communauté. Moi, j'ai commencé le foot grâce à mes meilleures amies. Je suis partie avec ma meilleure amie sur les terrains de foot. Donc, on a besoin de se sentir bien, d'être un peu en sécurité, d'être dans un confort pour se mettre après en mouvement. C'est toujours important.
Fatou nous appelle au 33 1 84 22 71 71 de Dakar. Bonjour Fatou.
Bonjour Fat. Bonjour Emmanuel.
Fatou, alors vous avez 25 ans, vous avez toujours fait du sport, vous ?
Oui, je fais du taekwondo.
Ouais.
J'ai beaucoup pratiqué le sport pendant mes années de collège.
Oui.
Surtout notre prof nous a beaucoup motivés sur ça.
Votre prof de taekwondo ou le prof de sport au collège ?
Oui, notre prof de sport au collège.
Et le taekwondo, comment vous l'avez découvert ? C'était au sein de l'établissement scolaire ?
Non, c'est une amie, c'est un garçon qui m'a proposé ça.
D'accord. Et quand vous êtes arrivée donc dans l'équipe de taekwondo, c'était surtout masculin ?
Oui, il n'y avait que des hommes.
Ah.
C'était la seule fille qui était là-bas.
D'accord, vous. Et pas d'intimidation, Fatou ?
Non, même pas. Ils m'ont beaucoup encouragée. Ils m'ont beaucoup soutenue. Ils m'ont montré tout ce qui se passait là-dedans, tout ce que je dois faire, tout ce que je ne dois pas faire. Tout ça, ils m'ont beaucoup soutenue. Ils m'ont pas vue comme en tant qu'une fille, mais ils m'ont vue en tant qu'élève.
Oui.
Simplement.
Comment vous expliquez ça ? C'est parce que vous dégagiez quelque chose de particulier ou en fait, c'est parce qu'il n'y a pas tant de préjugés que ça, à votre avis ?
Non, ici au Sénégal, il n'y a pas beaucoup de préjugés sur le sport. Mais bon, niveau football, c'est mal vu qu'une fille pratique le foot.
Oui,
c'est pas bien vu pour une fille.
Ouais. Et pour le taekwondo, un sport de combat, non ?
Non, il n'y a pas de problème. Pour tous les sports, le basket, le taekwondo, c'est pas mal vu, mais pour le football... Bon, on dit que ça dénature la fille et ça dénature...
Ça dénature, c'est-à-dire
ouais.
Physiquement.
Physiquement.
Quand ils se prévoient, est-ce que vous êtes dénaturé physiquement?
Non, il faut passer le message, Fatou, que je vais très bien. Je jouais au foot pendant quelques années et tout va bien. Il faut passer le message.
Vous aviez le même corps d'ailleurs, hein. Vous avez un corps...
Oui, mais
vous
moi
êtes
j'ai
très mince.
Commencé par le tennis, toujours hyperactive étant jeune. On a toujours besoin d'une balle, d'un ballon, de n'importe quoi pour se mettre en mouvement. Je pense qu'on est pareil, on a besoin de transpirer un peu, de se défouler en fait. Et donc le ballon rond s'est imposé comme ça, naturellement.
Laurence Fischer, vous êtes étonnée de cette auditrice qui pratique le taekwondo seule fille dans son club ?
Bah justement, ça, quand même, malgré tout, c'est assez significatif. Elle est seule. Hein, donc, s'il y a une tolérance, il y a cette motivation à ce que les filles pratiquent aussi un sport de combat, mais pas a priori, elles sont quand même pas très nombreuses dans le club.
Fatou, vous voulez lancer un appel pour faire venir des copines dans le club de taekwondo ?
Ah, oui. Bon, je soutiens toutes les filles à faire du sport, surtout le taekwondo, c'est un sport vraiment.
Oui, mais qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie ? Il faut donner des arguments.
Non, bon, moi, ça me permet d'être plus forte, d'être plus sûre de moi. Parce que le taekwondo, avant tout, c'est un sport qui te met à l'aise. Bon, ça me permet d'évacuer mon stress, d'être plus forte.
Merci en tout cas, Fatou, de nous avoir téléphoné. Bien sûr, vous avez la parole, les voisines. Qu'est-ce que le sport a changé dans votre vie de femme ? 33 1 84 22 71 71. Et bien sûr, les entraîneurs, les entraîneuses, les coachs qui n'ont pas de sexe, bien sûr, peuvent nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Je voudrais qu'on revienne aux chiffres des pratiques sportives et de l'exercice physique, de l'activité physique. Marie-Cécile Nave, où est-ce qu'on en est dans un pays comme la France ?
Alors, effectivement, il faut bien différencier l'activité en club, quand on appartient à une fédération, qu'on a une licence. Là, la part des licences féminines augmente régulièrement dans un grand nombre de fédérations.
Dans tous les sports, pratiquement ?
Pas dans tous les sports, mais on est un peu plus d'un tiers des licences, tous sports confondus, qui sont féminines, et c'est une progression intéressante sur plusieurs années. En revanche, la pratique d'activité physique au quotidien, là, la dynamique est négative. C'est-à-dire qu'avec les années, les femmes sont de moins en moins nombreuses à faire une activité physique quotidienne, c'est-à-dire la marche, du vélo, le fait de ne pas utiliser tout le temps les transports, alors que chez les hommes, la dynamique est inverse, c'est-à-dire que les hommes sont de plus en plus nombreux à avoir une activité physique quotidienne, alors, hebdomadaire.
Et c'est assez étonnant, parce que là, il y a des auditrices dans leur message qui nous disent, bah oui, mais il y a la famille, il y a les enfants.
Exactement, voilà.
Mais là, si on prend la tranche d'âge 6-17 ans, on ne peut pas dire que les filles de 6-17 ans doivent s'occuper de leurs enfants, de leur famille. Au moins 20% des filles réalisent les 60 minutes, moins de 20% des filles réalisent les 60 minutes quotidiennes d'activité physique. C'est 28% chez les garçons. Donc y a déjà un décalage à cet âge-là, en fait.
Oui, parce que les filles sont plus encouragées à se concentrer sur le travail scolaire. Et les garçons, vous l'avez dit tout à l'heure en début d'émission, on a toujours ce stéréotype, ce préjugé dans la tête que un garçon doit se défouler naturellement, comme si naturellement les filles étaient douces et studieuses et calmes, et les garçons avaient une certaine agitation, voire violence à réguler. Donc il y a tout un ensemble d'espaces de socialisation, le premier d'entre eux étant la famille, qui va davantage encourager le mouvement
des
garçons.
Mais c'est comme ça partout, cet énorme écart qu'on trouve en France, aux États-Unis par exemple.
Aux États-Unis, c'est la même chose, mais il faut vraiment croiser avec le territoire de vie et surtout l'origine sociale de la famille. C'est-à-dire qu'en fonction du diplôme des parents, en fonction du fait que vous vivez dans un territoire où, mais ça va souvent ensemble, hein, où il y a beaucoup d'installations sportives, où il y a des espaces aménagés aussi, l'espace public qui est adéquat, ça joue beaucoup.
Concrètement, plus on est pauvre, plus il y a un écart entre les filles et les garçons dans leurs pratiques sportives.
Oui, absolument.
Les filles ont moins accès au sport que les garçons.
Dans un rapport qu'on avait fait pour Najat Vallaud-Belkacem en 2014, qui parlait des stéréotypes filles-garçons, on avait constaté que l'écart de pratique à l'adolescence en France, hein, entre les filles et les garçons, allait jusqu'à 30%, parce que dans les classes populaires, tout territoire de vie confondu, hein, c'est pas que les banlieues. C'est aussi en territoire rural, où là, il y a des gros problèmes aussi de sédentarité, d'obésité, difficulté d'accès à l'information.
Oui, mais pour les garçons aussi, normalement.
Oui, mais le stéréotype de genre persiste dans le fait que... Et l'espace public aussi, la dimension d'espace public. L'espace public reste masculin dans les représentations collectives, et le foyer, l'espace domestique reste féminin. Et ça, ce sont des choses que les enfants observent autour d'eux. Mmh. La prise d'exemple autour d'eux, ils voient leurs parents, leur mère, leur père, les professionnels de la petite enfance, ils voient que les entraîneurs sont des hommes, ils voient que le sport à la télé, c'est des hommes. Et donc, tout ça joue énormément dans la prise d'exemple. C'est pour ça que la visibilité des sportives est absolument cruciale. La médiatisation, c'est fondamental.
Ça, les femmes spectatrices du sport des hommes, finalement. Laurence Fischer et Candice Prévost, vous, avec vos parcours respectifs, Laurence Fischer, déjà, pourquoi le karaté, en fait ? Comment vous êtes arrivée là ?
Ouais. En fait, c'est une histoire de famille. Mon père pratiquait, donc c'est vrai que ça aide. Il m'a vraiment encouragé à en faire, puisque au départ, moi, j'étais pas très motivée, j'avoue. Je voulais faire du théâtre et de la danse, donc j'en étais très loin. Et il a bien fait, puisque j'ai commencé à l'âge de 12 ans, donc très timide, introvertie, j'avais pas confiance en moi. Donc ça a été extraordinaire, en fait, pouvoir m'intégrer à un groupe, pouvoir me sentir, avoir confiance en moi, être encouragée, valorisée.
Le karaté a changé votre personnalité, vous diriez ?
Je dis pas que j'irai pas jusque là, mais disons que ça m'a permis de me révéler à moi-même, en fait, en tout cas de prendre conscience de mes forces, de mes qualités, et de le mettre, d'être tout à fait consciente de qui je suis et de mon potentiel et de faire émerger la femme forte. En tout cas.
Et pour vous, Candice Prévost, Parce que vous avez commencé par le tennis, donc vous avez commencé en jupe.
J'ai commencé en... Alors, il faut relativiser la jupe, elle est arrivée qu'une fois ou deux. Hein. C'était vraiment short ou bermuda ou chaussettes hautes. Donc on était... Moi, j'étais plus avec des modèles comme André Agassi à l'époque, quand j'ai commencé. Mais effectivement, quand je sortais des terrains couverts des tennis, je voyais les terrains de foot à côté et je ne voyais pas de jeunes filles jouer au football. En fait, je ne me suis jamais posé la question de si je pouvais jouer au football. Moi, je jouais au football avec mes copains en cours de récréation. Je jouais au football avec mes voisins, mon frère, dans le parking derrière ma maison. Et en fait, c'est comme ça que ça commence, l'histoire. Et en 98, notre équipe de France remporte la Coupe du Monde et s'ouvre des sections féminines. Et c'est à ce moment-là que des sections féminines s'ouvrent, où on se dit, bah voilà, les petites filles investissent les terrains et c'est possible. Donc c'est ça, c'est la visibilité, c'est pas la médiatisation, mais c'est la visibilité et donc l'accessibilité des jeunes filles au terrain de football.
Qu'est-ce que ça a changé, le foot, dans votre façon de vous construire en tant que femme ?
C'est particulier, c'est vrai que le tennis est très très individuel. Je pense au karaté aussi. C'est des processus et des sports qui sont très très centrés sur la personne. Et en fait, je pense pour moi, hein, par rapport au mental et au côté mental qui était très difficile pour le tennis. Et à partir du moment où j'ai investi le football, où je me suis mise au foot, c'était le vent de liberté. Je me suis sentie poussée, je me suis sentie aidée. J'avais plein de personnes autour de moi à qui pensaient la même chose et qui j'avais l'impression d'être Candice Prévost. Et au tennis, il me manquait quelque chose. Peut-être que c'était l'histoire d'une construction, mais en tout cas, le sport amène tellement de choses sur des valeurs, sur l'effort, le don de l'effort, le don de soi, et donc la générosité, le partage. On est sur tellement de choses qui sont hors rectangle vert ou hors tatami ou hors terrain, qu'on est forcément riche de ça.
Vous dégagez toutes les deux une forme d'assurance, hein, et en même temps un grand calme.
On ouais. se regarde.
Non, ça amène ça effectivement aussi. Je pense que dans un des points clés, c'est la une forme d'identifier ses émotions, de les maîtriser. Le fait qu'on se décharge aussi, qu'on a l'occasion en termes d'émotions aussi de les identifier, de les laisser aller, de les partager. Ça amène ensuite une grande sérénité. Enfin, moi, je le ressens comme ça aussi.
Je pense qu'en fait, sur le terrain, moi, je me sens très libre. Me sens moi-même et je me sens libre de créer des choses que dans ma vie, par exemple, dans une famille où j'avais mon père qui était un peu le patriarche, qui était le padré qu'on devait forcément respecter, et ma mère qui faisait un peu les tâches ménagères, un peu tout ce système, ce schéma familial-là, finalement, je ne m'y retrouvais pas. Je ne m'y retrouve pas. Et en fait, sur le terrain, j'étais libre d'être qui je voulais être.
C'est vraiment une source d'émancipation extraordinaire. Et en plus, moi qui étais assez asociale, ça m'a aussi permis, alors c'est vrai qu'on dit c'est pour individuel, mais pour moi ça ne l'est pas, parce que j'ai besoin de l'autre aussi pour apprendre, pour justement m'émanciper, et c'est un terrain extraordinaire. Et pour moi, la liberté, elle est effectivement la liberté d'être soi et d'aller vers l'autre en non-jugement, quoi, parce qu'on aime la même chose.
Toutes les deux, vous êtes arrivées très loin. Laurence Fischer, triple championne du monde de karaté. Candice Prévost, vous êtes devenue footballeuse professionnelle. Vous avez toutes les deux aussi créé des associations pour militer, pour créer de l'entraide entre les femmes et pour inciter aussi les filles à pratiquer vraiment un sport, hein, pas juste la petite activité physique. Vous nous appelez les voisines. Si le sport a changé quelque chose dans votre vie, 33 1 84 22 71 71, et bien sûr les entraîneurs, les entraîneuses, les coachs en tout genre qui travaillent à la réussite des filles dans le sport. Vous pouvez aussi nous appeler au même numéro.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
On donne la parole à un entraîneur. Alexandre nous appelle du Bénin. Bonjour Alexandre.
Bonjour Manuel.
Vous êtes à Abomey-Calavi, vous entraînez des filles au volleyball ?
Tout à fait.
Oui. Des petites filles, à quel niveau scolaire ?
Voilà. Bon, nous les recrutons en classe de CM1.
Oui.
en classe de CME qu'au moyen niveau 1. Mmh. Et ça nous permet de les suivre jusqu'au collège et même parfois quand ils atteignent l'université, avant qu'elles intègrent les cribles de l'université. Donc ça nous permet vraiment de les encadrer, et de leur apprendre les verbes du volleyball. Et elles peuvent participer aux championnats scolaires et même aux championnats nationaux. Uh-huh. Ça leur permet vraiment de sortir de leur village, ça leur permet d'aller un peu plus loin et de s'affirmer, de s'épanouir et de rencontrer d'autres filles, d'autres contrées, du Bénin et même à côté, à Lomé. Ouais. Au Togo, où on a quand même fait des sorties qui ont permis aux filles de montrer ce dont elles, ce dont elles sont capables.
Et comment vous faites pour recruter des filles pour ce club de volleyball ? Elles viennent
nous,
à vous ?
Nous ne passons pas les écoles. Oui, nous ne passons pas les écoles. Donc j'ai parlé de la classe du CME. On commence par le niveau CME pour pouvoir, au fur et à mesure, les recruter jusqu'au niveau du collège. Donc c'est les écoles qui nous servent de lieu de recrutement de sa fille et on les intègre dans l'équipe de la localité.
Au niveau des familles, comment ça se passe?
Oui, parfois, il faut aller demander l'autorisation aux parents pour qu'on puisse laisser les enfants venir, les filles surtout. Pour les garçons, il n'y a pas de problème. Et souvent, il y a beaucoup de railleries sur le terrain, les regards des hommes sur les filles qui s'entraînent, qui s'échauffent, mais ces regards ne sont pas toujours... De regards qui peuvent leur permettre de...
Et la pratique est mixte sur le terrain, filles-garçons ?
Oui. Pour les sections inférieures, comme les cadettes et les juniors, on les entraîne ensemble, mais on les met souvent de côté pour ne pas... pour éviter que les garçons emmerdent un peu les filles.
Ah oui.
On organise des entraînements un peu plus spécifiques pour les filles pour qu'elles se concentrent sur le sujet, mais quand elles ont un peu évolué vers le niveau junior, elles peuvent maintenant jouer avec les garçons.
C'est un vrai sujet, ça, la question de la mixité, hein, Marie-Cécile Nave. Mixité, pas mixité, comment, pourquoi, qu'est-ce qui est le plus favorable pour faire rester les filles, finalement, sur le terrain?
Alors, ça dépend un peu de quoi on parle, parce que là, on a beaucoup parlé de l'accès au sport pour toutes et pour tous. Hein. C'est d'ailleurs reconnu comme un droit fondamental au niveau international, notamment par l'UNESCO. Mais il y a aussi l'utilisation du sport un peu comme prétexte, comme levier pour améliorer la santé, pour reprendre confiance en soi, ça a été dit par Laurence Fischer tout à l'heure avec son expérience Fight for Dignity, pour un retour à l'école aussi, parce que dans beaucoup de pays, les filles sont contraintes d'abandonner les études pour... parce qu'on les destine à un mariage précoce, on ne veut pas qu'elles sachent trop de choses d'une manière générale. Et dans ces dispositifs-là, qui sont axés sur le lien social, sur la confiance en soi, sur le combat aussi collectif contre le poids des structures sociales patriarcales, la non-mixité peut être nécessaire à un certain moment, pendant un certain temps, pour que le regard des hommes, le regard des autres soit un petit peu évacué, pour qu'on soit justement moins dans une situation de complexe par rapport à son corps, et pour qu'on soit dans une sororité. On parle beaucoup aujourd'hui de sororité, de solidarité.
L'entraide entre les filles.
Et ça ne veut pas dire qu'on va et qu'on prône une société qui est séparée entre les femmes et les hommes. C'est juste un outil ponctuel, temporaire, pour reprendre confiance à soi. Et dans les 11 expériences internationales qui sont citées dans mon livre dont vous venez de parler, il y a cette dimension-là, et dans tous les pays qui sont étudiés.
Merci Alexandre de nous avoir appelé pour nous faire part de ce que vous vivez avec les filles au volleyball. On accueille une auditrice qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Pamela.
Bonjour Emmanuel.
Et vous êtes également au Bénin, Porto Novo, 28 ans, ancienne basketteuse.
En effet, ancienne basketteuse, judoka.
Oui.
J'ai commencé le basketball à 9 ans, après le décès de mon père. Et ça, grâce à ma mère, parce qu'elle m'a inscrit au basketball d'abord pour que je puisse me socialiser, mais ensuite parce que j'avais les aptitudes pour pouvoir faire du sport. Mais faire du basketball pour moi, c'était pour elle un loisir sans que je puisse me socialiser, que je puisse avoir deux enfants autour de moi.
Oui.
J'ai fait du basketball jusqu'en 2014 et j'ai fait de la compétition. J'ai fait du basketball en club en 2014. J'ai eu une blessure au genou et après cette blessure, je pouvais plus faire de compétition.
Oui.
Donc, j'allais jouer au basketball pour m'amuser Et c'est en m'amusant justement sur un terrain de basketball comme ça que j'ai été repérée par un maître de judo de l'INDEF, de l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport.
D'accord. Et donc c'est à la suite de cette blessure que vous avez basculé vers le judo?
Exactement. C'est à la suite de cette blessure que j'ai fait du judo. Je dois quand même dire que commencer le basketball à 9 ans et le faire jusqu'en 2014, donc jusqu'à ce que j'ai 24 ans, pour moi, ça a été un vrai processus de découverte de moi-même, de découverte de mes pères et de la société, parce que ça a été quand même une expérience qui m'a permis non seulement de me définir en tant que femme, oui, dans une société où vous êtes forte, ou que vous ne vous comportez pas forcément comme une fille, donc pour réduire, pour être une lunette, c'est un peu compliqué dans cette société. C'est une sorte d'exclusion à un moment donné, parce que les gens commencent à vous à faire de vous une sorte de cible pour les stéréotypes. Et vous, en fait, lorsque vous retrouvez sur le terrain, moi particulièrement, lorsque j'étais sur le terrain, c'était le moment pour moi de ne pas être exclusive par mes seins ou mes fesses ou mon corps. C'était le moment pour moi de pouvoir vraiment prouver que j'étais capable de quelque chose d'extrêmement
mécanique. Ouais. Vous avez traversé l'adolescence sans encombre grâce au sport, finalement, Pamela. Merci beaucoup de nous avoir appelés. On vous donne la parole, bien sûr, les voisines, si vous êtes structurées grâce au sport, au 33 1 84 22 71 71. Laurence Fischer, je voudrais qu'on parle de votre expérience dans un pays particulier, dans un contexte particulier, les femmes violées à l'est de la RDC, où vous travaillez à la demande du docteur Denis Mukwege, que vous avez rencontré il y a quelques années maintenant. Comment ça s'est passé et comment vous travaillez avec ces femmes où... A priori, on ne pense pas au sport comme une aide pour la reconstruction.
Oui, effectivement, c'était de leur volonté de vouloir pratiquer, en particulier le karaté, ils font aussi du football. Et le constat que j'ai fait dans ce contexte absolument innovant qu'a mis en place le docteur Denis Mukwege à la maison d'Orcas au sein de la fondation Panzi, qui a un environnement pluridisciplinaire où post-opératoire et donc en post-traumatique, les jeunes femmes, elles sont très très jeunes, elles ont entre 12 et 18 ans, sont accueillies, elles sont en convalescence, elles sont là souvent parce qu'elles ont l'enfant issu du viol. Et dans ce contexte holistique mis en place en 2008, après une grande réflexion du fait que les femmes revenaient encore se faire opérer, enfin il y avait une grande difficulté d'autonomie et d'inclusion sociale pour ces femmes, et jeunes femmes surtout, le constat c'était que par le corps, en termes de reconstruction, rien n'était proposé. Mmh. Et c'était le constat que j'ai fait et que je fais aujourd'hui, que en post-trauma, aujourd'hui, rien n'est le sport n'est pas proposé comme outil de reconstruction.
Vous avez été surprise vous-même de ce que vous avez vu, de ce que pouvait apporter le sport?
Oui, absolument, et c'est pour ça que j'ai créé Fight for Dignity, c'est que l'impact, et on va le mesurer, c'était la conclusion de cette semaine à Panzi avec le docteur. Je salue toutes les équipes, si elles écoutent, pour le grand travail qu'elles font, et l'Institut français aussi qui nous a accueillis avec le témoignage, les jeunes femmes ont témoigné avec l'entraîneur. Au bout de 2 ans, je me suis dit oui, retrouver de l'estime de soi, se réapproprier ce corps meurtri par le corps en action, par la pratique spécifique et adaptée du karaté avec en transversalité de la respiration. On travaille beaucoup les muscles périnéaux. Ouais. On parle de vulve, on parle d'anus, qui est complètement tabou. On parle du pipi qui sort alors qu'on veut pas. On parle de ces choses très très concrètes et malheureusement tabou.
Mais au service du sport.
Au service d'une pratique
sportive. Oui. Même si vous ne cherchez pas la performance.
Non, loin de là. L'objectif d'abord, c'est que ces femmes, comme je vous ai dit, se réapproprient le corps, retrouvent la confiance en elles. Et au bout de 2 ans, j'en ai eu, donc sur les 20 jeunes femmes qui pratiquent hebdomadairement, j'en ai eu qui m'ont dit, je veux aller au village, je veux aller à Goma, à Bukavu et transmettre. Et ça, pour moi, c'est une vraie victoire. Et c'est pour ça que Fight est né et qu'on espère, grâce à la science, à l'université de Strasbourg, on va prouver que on l'espère que que l'impact est positif pour pouvoir ensuite au Kivu transmettre. On est en train de parler à l'association des survivantes, de se dire que ce soit les survivantes par la suite qui transmettent aux femmes, et qu'on fasse un maillage de la pratique accessible et adaptée du karaté.
Marie-Cécile Naff, c'est encore complètement sous-estimé cette action sociale par le sport auprès des femmes.
C'est non seulement sous-estimé, mais c'est sous-évalué. Et donc, ce que je trouve, entre autres choses, hein, c'est une expérience vraiment fascinante, très intéressant dans ce que vient de dire Laurence Fischer, c'est le souci de s'associer avec de la recherche interdisciplinaire, pas que en médecine, hein, il y a aussi des sciences sociales qui sont mobilisées, et de s'en servir pour évaluer l'impact et le leg sur le long terme. Et ça, c'est très intéressant parce que beaucoup de grands événements sportifs internationaux, dont la future Coupe du Monde féminine de football, qui va avoir lieu en France, vous l'avez dit, qui pensent peut-être que de manière magique, le sport va changer la vie des femmes, qu'on va aller vers plus d'égalité entre les femmes et les hommes de manière automatique. Non, ça ne se décrète pas. Il faut des processus d'accompagnement. Il faut que les enjeux de santé, d'éducation, de mixité filles-garçons, de lutte contre les stéréotypes, d'accès à l'emploi, de lutte contre la sédentarité dans certains territoires, c'est particulièrement problématique, surtout dans certaines villes hautes de la Coupe du Monde. Eh bien, tout ceci soit accompagné en amont et en aval. Et la recherche est un outil absolument indispensable.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On a pas mal d'auditeurs qui veulent s'exprimer sur ce sujet. Victoria est à Kinshasa, 24 ans. Bonjour Victoria.
Bonjour Emmanuel.
Victoria, vous êtes une passionnée de sport, de foot en particulier. Vous avez beaucoup joué au foot pendant votre adolescence?
Oui, j'ai pratiqué le sport à l'âge de 13 ans à 15 ans. Ouais. J'étais encore élève. L'initiative était venue de l'école où j'ai étudié.
Ouais.
C'était pendant, en dehors des cours qu'on jouait. Et puis, on s'est dit entre nous les filles, hein, en dehors de l'établissement scolaire, qu'on se rencontrait pour jouer au foot.
Ouais.
C'est de là que je
Mais quand vous jouiez au foot entre filles ou avec des garçons, Victoria?
C'est entre nous les filles.
Entre vous les filles. D'accord, vous avez fait une petite équipe.
Cette équipe, et j'étais tombée amoureuse du foot. Football, malheureusement, cette option n'avait pas sa place dans ma famille. Mm-hmm. D'abord, tant que sport, mais également en tant que sport homme.
Oui.
Donc, mon père me disait souvent que les sports sont réservés aux hommes. Tu es une fille et tu ne peux pas la pratiquer. Tu dois te concentrer à tes études. Ça s'est fait passer du temps. Il n'y en a pas l'argent des temps. Mm. Et c'était, je voyais que c'était une sorte de discrimination. Je n'y avais pas pu combattre contre ma famille. Et plus tard, je me suis réfugiée en journalisme pour une carrière sportive. Mm. C'est de là que je me suis sentie à l'aise.
Mm. Victoria, merci pour votre témoignage. Merci de nous avoir appelé 33 1 84 22 71 71. Candice Prévost, une fille qui joue au foot, c'est une fille qui perd son temps. On avait l'impression que c'était ça l'histoire de Victoria, la double erreur, faire du sport et en plus jouer au foot.
C'est dur, hein. Même encore aujourd'hui, c'est très très dur de dire je fais du foot, je suis une femme, mais les personnes, même par chez nous, on a l'impression que c'est encore, ah bon, tu as fait du foot? Jamais.
Rappelons que votre sport, Candice Prévost, aux États-Unis, c'est le sport féminin par excellence.
Oui, le soccer, c'est considéré comme le sport pour les femmes là-bas. C'est effectivement, c'est culturel, c'est historique, c'est le sport.
Sinon, le football dit américain.
Le football, c'est le sport pour les hommes, les hommes musclés, les hommes forts.
Plus violents.
Le basketball, le baseball sont les sports pour les hommes là-bas, très populaires pour les hommes. Et les femmes se sont emparées du soccer. Les hommes sont nettement moins bons dans le palmarès par rapport au soccer. Mais malgré ça, elles n'ont pas l'égalité salariale. Les femmes gagnent moins que les hommes, alors que économiquement elles sont supérieures aux hommes. Donc c'est,
j'allais dire, en termes de performance dans les compétitions internationales.
Dans les compétitions,
elles sont meilleures. Elles rapportent plus d'argent à la fédération de soccer américaine et elles sont moins bien payées que les hommes.
Exactement. Elles ont attaqué leur fédération pour discrimination. Elles sont en train de gagner.
Mais c'est symbolique, c'est-à-dire que le soccer, le pays où justement c'est le pays number one pour les femmes, même aux États-Unis, elles n'ont pas l'égalité salariale, c'est-à-dire que si les États-Unis n'ont pas cette égalité-là, après, derrière, on se dit que partout ailleurs, ça va être très, très dur.
Il y a encore du boulot. Hein. Guy nous appelle de Cotonou au Bénin, mais les voisins béninois, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, ils sont passés le mot hein, sur le sport. Bonjour Guy, soyez le bienvenu.
Bonjour.
Vous avez créé la première équipe de foot du Bénin.
Oui, en effet, en 1974, nous avons eu l'honneur de créer une équipe féminine de foot, disons la toute première. Et l'objectif que nous avions à l'époque, c'était qu'il y ait assez de filles qui jouent, c'est-à-dire la vulgarisation du football féminin. Aujourd'hui, nous avons continué, mais nous avons vu que c'est plus difficile que les parents laissent les filles venir jouer.
Attendez, donc, aujourd'hui, c'est plus difficile qu'en 1974, quand vous avez créé cette première équipe de foot, cette première équipe féminine.
Non, on a commencé en 1974 et c'était plus difficile. Mais de plus en plus, on a essayé de convaincre les parents par des méthodes. Sur le plan scolaire, on essaie d'aider les enfants à la scolarisation. Et lorsqu'il y a des blessures et tout ça, on essaie d'assister les parents et tout. Et les filles ont pris goût. Aujourd'hui, on peut compter une bonne quarantaine d'équipes féminines de football au Bénin. Et nous faisons des championnats de première division. Nous avons la chance de participer à des compétitions sur le plan national et international aussi.
Est-ce que vous êtes soutenu par les pouvoirs publics dans ces initiatives, Guy ?
Jouer au football par les femmes est une initiative, une innovation. Et beaucoup de gens ne s'intéressent pas beaucoup à cela parce qu'ils disent que ce n'est pas une affaire de femmes. Mais avec le temps, les femmes ont essayé de convaincre par leur technicité, par leur jeu et par leur amour.
Est-ce que vous êtes soutenu par les pouvoirs publics au Bénin, Guy ?
Oui, nous avons à la Fédération Béninoise de football une commission de football féminin. Qui organise les championnats. Bon, il faut avouer que ça se passe comme ils peuvent. Et moi, je voudrais souhaiter que ça soit mieux. Que ce soit mieux organisé, que ce soit mieux fait. Qu'on ait un championnat de première division, deuxième division et troisième division pour les filles de 10-12 ans.
Bon, bah, on a attendu votre appel, hein. Je crois que c'est très clair. Merci beaucoup, Guy, de nous avoir appelé. En termes de politique publique, qu'est-ce qui reste à faire ? Quelles sont les priorités, selon vous, pour qu'il y ait davantage d'accès aussi au sport, dans les fédérations, dans les pratiques sportives pour les filles ? Et puis aussi, peut-être, qu'on aide les filles à monter, à se réaliser aussi par le sport ? Peut-être aussi, pourquoi pas, jusqu'à sur un plan professionnel ?
Ce qui manque dans tous les pays, y compris le nôtre, c'est la transversalité. C'est-à-dire que le sport demeure encore très largement circonscrit au ministère des Sports, alors que ça devrait être interministériel. Nous, on rêve à Sport et Citoyenneté d'une compétence interministérielle rattachée au Premier ministre qui travaille sur les enjeux de santé, qui travaille sur les enjeux d'éducation, même si l'école en France fait un travail immense pour la mixité et l'égalité filles-garçons dans le sport, sur la question de l'emploi, la question du développement territorial. Il faut que ce soit transversal et puis d'une manière générale, il faut prendre le sport au sérieux. On ne prend pas assez le sport au sérieux. C'est un véritable outil de développement dans les pays du Sud. C'est un véritable outil de cohésion, de paix, de solidarité, mais ça se décrète pas. Il faut des politiques transversales.
En même temps, on a beaucoup d'affichages politiques. On a plusieurs ministres femmes de la jeunesse et des sports. Et derrière, finalement, comme vous le disiez, ça ne se décrète pas. Alors, qu'est-ce qui manque très concrètement comme travail aussi avec les fédérations sportives ?
Enfin, moi, ce que je constate, c'est que c'est très lié aussi à une société patriarcale. Je me dis que du moment qu'à un moment, dans un couple, le compagnon, enfin, on va dire que l'autre moitié dise, mais écoute, je garde les enfants dans le cadre d'une famille et va faire ton sport ou va faire ton cours, va enseigner. Pourquoi aujourd'hui il y a très peu de femmes qui enseignent aussi ? C'est une vraie question.
Dans le milieu associatif d'ailleurs, hein, notamment, oui, où là aussi c'est du bénévolat très souvent.
Oui, au-delà du fait que du bénévolat, c'est ce temps que la femme va s'accorder à aller enseigner la pratique du sport aujourd'hui. Pourquoi ? Pourquoi il y a si peu de femmes qui enseignent? Donc je me dis que déjà au sein du fonctionnement au quotidien de la famille, que la femme s'accorde ou qu'on se mette d'accord dans le foyer pour permettre à la femme soit d'enseigner, soit d'aller pratiquer son sport. Même en termes d'image au sein de la famille, que les enfants voient leur maman prendre son temps pour aller faire du sport ou aller enseigner. Bon, on allait enseigner, c'est pas rien quand même. Et puis, je reviens sur le volet, et le monsieur l'a dit, 1974, la création de l'équipe, enfin, du foot féminin. Nous, le karaté, on a eu le droit de faire la compétition dans les années 80. Mais je peux vous dire que l'écart aujourd'hui, on est en train de bien tout casser par rapport au peu de temps qu'on nous a accordé à pouvoir pratiquer. Aujourd'hui, ce sont les féminines en karaté qui excellent, qui sont les meilleures et qui portent haut la performance en karaté.
Candice Prévost, à la lumière de ce que vous voyez quand vous sillonnez le monde pour le foot féminin, est-ce que les choses sont vraiment en train de changer ?
Les choses changent, il y a des vraies actions et qui sont menées un peu partout dans le monde, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a... Le chiffre FIFA, c'était 33 millions de femmes jouent partout dans le monde. Je pense que nous, on a vu des femmes qui ne sont pas comptabilisées par la FIFA, parce qu'il y a des femmes qui tapent dans le ballon partout dans le monde et pour des sujets. Je pense à l'Afrique du Sud, par exemple. On a rencontré des femmes qui étaient âgées de 55 à 85 ans, qui s'appellent Vakegula, qui sont des grands-mères, qui jouent au football pour éviter l'exclusion. Qui jouent au football pour se mettre en mouvement et se sentir en bonne santé. Et donc, elles se regroupent ensemble pour créer une communauté, parce qu'elles sont très régulièrement et très souvent veuves à ce moment-là. Et elles se retrouvent ensemble pour jouer au football.
Même à Pandzi, je vous dirais, on a l'équipe féminine de foot à Pandzi, qui est...
À l'est de la RDC.
Oui, à l'est de la RDC, qui est une très, très forte équipe. Les filles sont extrêmement motivées, et donc ça bouge, hein.
Se mettre en mouvement, Marie-Cécile Nave, s'il y avait un projet parmi les projets modèles qui figurent dans votre livre pour essayer que les femmes aient davantage leur place dans le sport.
Ah, c'est trop compliqué de me demander d'en choisir un. Mais moi, j'aime beaucoup Tackle Africa, qui est un projet au Burkina Faso qui est axé sur la santé sexuelle. L'accès à l'information sur les infections sexuellement transmissibles, sur le respect entre les filles et les garçons, sur évidemment comment se reconstruire après un viol ou un mariage forcé. Je trouve que cette expérience est vraiment très intéressante, mais celle de Laurence Fischer est exemplaire. Les 11 qu'on a choisis avec beaucoup de mal, je dois dire.
Et puis en Inde aussi, ça peut aider à sortir de la pauvreté. Que le sport ne rapporte pas grand-chose pour les femmes, ça on aura cessé de le dire.
Oui, pour un retour à l'éducation, et là il faut convaincre les familles, il faut associer les communautés locales, et parfois il suffit vraiment d'une sensibilisation qui n'est pas aussi compliquée qu'on le pense. Et c'est ça qui nous a intéressés aussi en mettant en valeur ces 11 expériences, c'est de montrer que il y a des leviers clés de succès dont on peut s'inspirer, qui sont pas si compliqué qu'on pourrait le croire. Et parmi ces expériences, il y en a beaucoup qui sont soutenues, cofinancées par les organisations sportives internationales, CIO, FIFA, UEFA et d'autres.
Merci en tout cas à toutes les trois. Merci à vous, Candice Prévost. Bon, pour vous, c'est rendez-vous pour la Coupe féminine de foot. Hein. On va évidemment, vous allez suivre tout ça de très très près. Et puis l'association Little Miss Soccer. Marie-Cécile Nave, le 27 mai prochain, c'est la conférence à Paris sur l'émancipation des filles par le sport qui se déroule...
À l'Hôtel de Ville de Paris le matin, et toutes les informations sur le site de sportetcitoyenneté.com.
Pour s'inspirer des bonnes pratiques dans le monde. Et merci à vous, à Laurence Fischer, triple championne du monde de karaté, fondatrice de l'association Fight for Dignity. Merci à toute l'équipe, et on se retrouve demain pour 7 milliards de voisins, même heure, même endroit, avec Romain Dubrac, avec Delphine de Dianous, avec Sigrid Azerwa. Merci à vous tous, les voisins et les voisines, de vous faire entendre votre voix chaque jour. Accent.